Lire dans le noir.
L'évangile de Jimmy, par Didier Van Kovelaert.
Disque numéro 2, chapitre 5.
On l'a retrouvé. La voix était rauque, étouffée, métallique. Erwin Glasner recula de 3 pas en isolant son oreillette des bruits d'applaudissements. « Je vous entends mal. Pouvez-vous rappeler dans 1 heure ?»«
Le projet Oméga, on l'a retrouvé. »
Glasner sentit un frisson glacé dans sa nuque. Il continua de reculer jusqu'à l'extrémité de l'estrade, lentement. Les autres conseillers s'écartaient, sourcillant, réprobateurs. Le président a achevé son discours à la presse pour l'Independence Day, et ceux qui l'avaient écrit se devaient de l'assumer, même si Bruce Nelcott en oubliait la moitié, comme à son habitude, alambiquant, déformant et brodant pour alimenter son charisme. Le conseiller scientifique descendit les 3 marches du podium installé sur la pelouse, essayant de maîtriser les battements de son cœur, et s'éloigna vers les buffets de la garden party où les plateaux de canapés allégés transpiraient sous la protection de cellophane.
« Vous êtes sûr ? Il est en vie ?»«
Je ne vous dérangerai pas, sinon, » reprit la voix sourde du docteur Sandersen. « Il vient de passer un contrôle médical. Ses données génétiques ont été reconnues par le programme Jonas. J'ai son identité, son adresse, son CV. Si cela intéresse vos employeurs, à présent, venez me voir. »
Erwin s'appuya contre un chêne pour dominer le vertige. Philippe Sandersen avait coupé la communication. Quel âge pouvait-il avoir aujourd'hui ? 75 ? 80 ? Un accès de démence sénile était toujours envisageable. Mais Erwin sentait au fond de lui une intuition écarter l'hypothèse. Un secret espoir aussi. Depuis 25 ans, le petit déjeuner de travail autour du linceul de Turin hantait sa mémoire. Ayant conservé une copie des archives détruites sur ordre de la Maison Blanche, il avait durant des mois vérifié le séquençage, le protocole, les manips et les résultats de Sandersen. L'ADN présenté comme celui de l'enfant disparu était en tout point conforme au génome du crucifié. Mais seule une prise de sang dans un laboratoire indépendant aurait pu confirmer que le sujet était bien un vrai clone. En 2015, lorsque la carte génétique était devenue obligatoire pour tous les citoyens, le conseiller Glasner avait obtenu du FBI qu'un programme informatique relié au fichier de la santé publique puisse détecter le génotype Oméga si jamais il apparaissait dans un dossier médical. Sans aucun résultat. L'administration démocrate qui avait ensuite accédé au pouvoir était censée poursuivre le programme Jonas, mais Glasner n'en avait plus trouvé trace quand la victoire des Républicains l'avait ramené à la Maison-Blanche. Il savait maintenant pourquoi. Dès la prohibition décrétée par George W. Bush, le docteur Sandersen s'était expatrié pour continuer ses activités dans le privé. Erwin lisait régulièrement ses publications scientifiques et les rapports que lui consacrait la CIA. Sandersen avait gagné des millions en pratiquant à tour de bras la « transplantation nucléaire », comme on devait dire désormais pour éviter le terme « clonage » qui tombait sous le coup du crime contre l'humanité. Proposant sur catalogue aussi bien la duplication d'animaux domestiques que la reproduction d'organes humains à partir des cellules souches, médiatisée à l'extrême, Philippe Sandersen avait néanmoins respecté le secret défense auquel Bush l'avait astreint, au point qu'Erwin s'était persuadé, avec le temps, que son impression première était la bonne. S'il y avait une naissance, le clone issu du linceul n'avait pas vécu, et l'incendie du centre de recherche avait camouflé l'échec dans l'espoir d'une reconduction de crédit. Tout était remis en question à présent. Et comme par hasard, Sandersen revenait à la charge au moment même où le président Nelcott promettait la fin de la prohibition, légalisant le clonage humain dans un souci de justice sociale, afin que son contrôle puisse être exercé par des instances officielles, ses perspectives s'ouvrir à tous les citoyens et ses profits entrer dans les caisses de l'État. Erwin ferma les yeux, adossé au tronc, sentant la douleur envahir son crâne à chaque pulsation. Comme des milliers d'Américains, il avait développé une tumeur au cerveau par fuite d'albumine. Les nouveaux téléphones mobiles, gainés de mu-métal anti-rayonnement, étaient supposés protéger la barrière hémato-encéphalique,
mais le gouvernement continuait de maquiller les statistiques pour éviter la panique générale, sous prétexte que la peur jouait un rôle déterminant dans le déclenchement des cancers. S'estimant condamné à brève échéance, Irwin n'avait pas cru bon de renoncer à l'oreillette indispensable à ses fonctions et prévoyait de mourir debout, connecté, inutile. Son bilan de santé n'était pas celui qui l'affectait le plus. Ses quelques 20 ans de service au sommet de l'État pour défendre et stimuler la recherche scientifique n'avaient débouché sur rien. Proscrit par des lois internationales violées sans problème dans les cliniques offshore, le clonage reproductif humain n'avait tenu aucune de ses promesses. Après avoir manifesté la même hostilité de principe qui avait condamné autrefois la fécondation in vitro jusqu'à temps qu'elle réussisse, l'opinion publique s'était empressée d'oublier son veto moral pour s'enthousiasmer sur les premiers nourrissons du clonage. Mais l'immense émulation soulevée chez les généticiens avait rapidement tourné court. Aucun enfant né par transplantation nucléaire n'avait jamais atteint l'âge de raison. Entamant sa vie avec un capital génétique déjà usé par les divisions successives et les mutations héritées de son donneur de noyau, la copie obtenue n'était en outre jamais totalement conforme à l'original, l'influence de l'ovocyte ayant été indûment négligée. On avait fini par découvrir que le noyau transféré, siège des chromosomes, n'avait pas le monopole des gènes utilisés lors de la constitution de l'embryon. L'ovule d'accueil, même énucléé, modifiait en effet par l'ADN des mitochondries contenues dans son cytoplasme, l'anatomie du cerveau, le système nerveux et la personnalité du futur fœtus. Revanche imprévue du marquage maternel qu'on pensait avoir neutralisé, cette contamination incontournable ramenait les praticiens du clonage aux aléas de la reproduction sexuée, ironie lourde de conséquences lorsque la prestation est facturée plus de 100 000 $. Le doyen des clones, un japonais caractériel et névropathe issu des gènes d'un maître zen, s'était éteint à l'âge de 3 ans et demi, achevant de décourager les investisseurs pour qui la duplication narcissique était redevenue un rêve impossible. Cessant de dilapider leur fortune dans l'espoir illusoire de se réincarner de leur vivant, ils s'étaient alors tournés vers le clonage hippique, moins excitant intellectuellement mais beaucoup plus rentable. Ainsi, la course au décalque génétique des grands cracks disparus, avec ses querelles d'écurie, avait-elle occulté dans le débat éthique la vraie question qui obsédait Irwin ? L'incapacité de mener à terme la croissance d'un clone humain était-elle due à des erreurs techniques, faute de programmation, mauvais ciblage, réveil de gènes inactifs, ou à un problème de fond ? L'Église, qui avait promulgué en 1869 le dogme sur la présence de l'âme sitôt la formation de l'embryon, condamnait le clonage, mais ne donnait pas de raison théologique autre que celle qui lui servait à interdire l'avortement. Dès lors, si le clone de Jésus de Nazareth était encore en vie, au mépris des malformations et dégénérescences qui décimaient ses congénères, s'il avait dépassé la trentaine ainsi que le prétendait Sandersen, comment fallait-il l'interpréter ? En tout état de cause, au-delà des discussions religieuses, il s'agissait probablement du seul clone humain adulte sur la planète. On ne pouvait pas laisser entre les mains de son concepteur ce prototype unique et négociable à merci.